moi c'est André Limbouchmaï, au Kasai oriental. J'ai refusé totalement ce qui
se passe. Moi c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'écouter ces derniers numéros des paroles aux auditeurs de cette semaine. Le nombre croissant d'enfants qui travaillent dans des carrières d'exploitation artisanale du diamant à Tchikapa inquiète beaucoup la société civile de cette ville située à plus de 200 km de Kananga au Kasai occidental. Les enfants qui travaillent dans les mines sont aussi enregistrés dans d'autres provinces à forte activité minière comme le Katanga, le Nord Kivu ainsi que le Sud Kivu. Dans son dernier rapport du mois de juin 2013, l'ONG Vision du Monde qualifie le travail des enfants dans les mines d'un fléau et met en lumière des dangers auxquels ces enfants sont exposés. Cette situation relance le débat sur le travail des enfants en RDC. Que proposez-vous pour mettre fin au travail des enfants en RDC? Nous en parlons avec Joseph Godekayimbe, secrétaire permanent adjoint du Conseil national de l'enfant et président de la LISADEL. J.R. Lungembo, Nadine Fula, Willem Lungamba sont à la réalisation de cette émission présentée par Pierrot Elameji sous la supervision de Nicole Nkaka. 081-890-4339, c'est le numéro Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Des milliers d'enfants travaillent dans les mines d'exploitation artisanale, que ce soit de l'or, du diamant, du cassitérite, à travers le pays. Nous en parlons avec vous. Quelles sont les mesures qu'il faudrait mettre en place pour mettre fin à cette situation des enfants qui travaillent dans les mines, mais pas seulement dans les mines, parce que les enfants travaillent aussi dans les divers domaines, font divers métiers à travers le pays. Dans votre milieu, vous pouvez connaître cette situation, mais qu'est-ce qui doit être fait pour mettre fin à cela? Nous en parlons ensemble avec vous. Vous êtes très nombreux qui vous êtes déjà inscrits pour intervenir dans cette émission et aussi beaucoup des réactions que nous avons reçues sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Nous avons en ligne notre invité, Joseph Godekayimbe. Bonjour.
Bonjour.
Nous parlons du travail des enfants. On sait, comme l'a dit l'ONG Vision du Monde, en ce qui concerne les secteurs miniers, qui sont un fléau, beaucoup d'enfants sont exploités dans les carrières d'exploitation artisanale des mines. Dégageons ensemble les pistes des solutions pour voir comment faire face à cela. Mais au niveau du Conseil permanent de l'enfant et de la LISADEL, quelles sont les données que vous avez par rapport à cette situation des enfants qui travaillent non seulement dans les mines, mais d'une manière générale en RDC?
Oui, il y a beaucoup d'enfants qui travaillent dans les mines. En dehors des mines, il y a d'autres secteurs où les enfants travaillent. Mais la loi dit, la loi portant protection de l'enfant, du 09-09-0-01 du 10 janvier 2009, dit ceci dans l'article 55. Que l'enfant ne doit pas travailler plus de 4 heures. Et en même temps, il dit qu'il interdit les pires formes de travail de l'enfant sont interdites. À ce qui concerne les pires formes de travail, la loi dit ceci, que les travaux qui, par leur nature, les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la croissance, à la sécurité, à l'épanouissement, à la dignité ou à la moralité de l'enfant. Et la même loi déclare, la disposition 58, que l'enfant est protégé contre toute forme d'exploitation économique. L'exploitation économique s'entend de toute forme d'utilisation abusive de l'enfant à des fins économiques. L'abus concerne notamment le poids du travail par rapport à l'âge de l'enfant, le temps et la durée du travail, l'insuffisance et l'absence de la rémunération et l'entrave du travail par rapport à l'accès à l'éducation de l'enfant, au développement physique, mental, moral, spirituel et social de l'enfant. En fait, les travaux dans les mines font partie de la pire forme de travail de l'enfant et qui sont interdites par la loi.
Mmh. Mais quand on parle de la pure forme, alors quelle est la forme qui peut dans l'enfant, en fait, la forme qui concerne effectivement l'enfant, parce que là il y a des problèmes, peut-être des confusions pour les auditeurs. Quand on parle de l'enfant, c'est de quel âge et à quel âge on peut faire quel travail, hein? C'est un peu ça, toutes ces questions qui peuvent permettre aux auditeurs de mieux cerner le problème.
L'enfant est supposé d'abord, dans l'avant-midi, il est supposé être à l'école. C'est pourquoi l'État doit rendre l'enseignement gratuit et obligatoire. Lorsqu'il trouve l'enfant, soit dans les mines ou soit sur la route, à l'heure de l'école, l'enfant doit être interpellé et les parents doivent pouvoir payer des amendes par rapport à l'abandon de l'enfant. Parce que la loi dit que l'abandon de l'enfant, c'est une infraction et les parents doivent pouvoir subir la sanction par rapport à ça.
Mmh.
En dehors de ces heures-là, l'enfant peut faire les travaux légers qui peuvent lui permettre de pouvoir survivre, parce que je me souviens que dans nos villages, les enfants peuvent vendre soit des cigarettes, soit vendre des maniocs pour aider à pouvoir des choses qui sont simples, que l'enfant peut transporter pour lui permettre soit de payer les cahiers, soit de payer quelque chose pour eux-mêmes. Mais ça, ce ne sont pas des travaux qui empêchent l'enfant de grandir. Mais lorsque l'enfant se retrouve dans le mine, cet enfant, d'abord, c'est un travail qui n'est pas de son âge, et puis deuxièmement, il ne sera pas payé conséquemment, et puis troisièmement, cet enfant est empêché d'aller à l'école. Donc il ne va pas grandir normalement comme la loi le prévoit. C'est pourquoi cette forme de travail est considérée comme la pire forme, et l'enfant ne peut pas travailler, ne peut pas être... et c'est interdit par la loi.
Merci, merci beaucoup de toutes ces précisions par rapport à ce qu'est dit la loi. Maintenant, avec les auditeurs, nous allons ouvrir l'échange par rapport aux pistes des solutions, mais les témoignages aussi, ainsi que les pistes des solutions. Vous êtes nombreux à vouloir réagir sur notre standard. On pourra maintenant revenir par rapport à ce qui s'est fait sur terrain, qu'est-ce qui doit être fait, quelles sont les mesures pour protéger ces enfants qui sont exploités dans les mines. Nous allons partir au Katanga. On a deux auditeurs, je crois bien, patients et Jires, qui sont à Lubumbashi, au Katanga. On va leur accorder la parole, mais je rappelle encore le numéro de contact pour intervenir en direct, 081 890 43 39. Si vous avez besoin de nous appeler pour contribuer bien sûr à cette émission consacrée aux mesures qu'il faut prendre pour mettre fin à l'exploitation des enfants dans les mines, mais toute autre forme d'exploitation et d'autres travaux qui peuvent empêcher l'enfant de grandir, de s'épanouir et de se développer d'une manière morale.
Parole aux auditeurs.
Jires, vous êtes à Lubumbashi, au Katanga. Bonjour. Jires, vous êtes avec nous de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour.
Oui, vous avez suivi notre problématique. Quand vous regardez aujourd'hui, en dehors des enfants qui sont utilisés dans les mines d'exploitation artisanale, mais est-ce que, par exemple, à Lubumbashi, vous avez aussi une forme de travail auquel les enfants sont soumis pour que nous puissions ensemble dégager les pistes de solutions pour faire face à cela, Jires?
Pour le moment, il y a beaucoup, plus les enfants sont beaucoup confrontés à des situation de petits commerces, hein, de petits commerces.
Mmh.
Souvent, nous en avons ici beaucoup qui nous vendent des légumes.
Mmh.
Des légumes, et aussi, il y a d'autres enfants aussi qui nous vendent des petites choses, des oranges, bon, des petites choses, de rien du tout, vraiment.
Mmh. Mais par rapport à cette situation des enfants qui sont exploités dans les mines, quelles sont les mesures, qu'est-ce qui doit être fait pour mettre fin à cela?
Pour mettre fin à cela, il faut qu'il y ait un peu un système de rééducation. Il y a eu un temps où, ici à Lubumbashi, pour palper au système des enfants de Chegui, le gouvernement provincial a mis un système de centre de rééducation et il n'y avait pas de Chegui ici à Lubumbashi. Alors, moi je pense, pour mieux améliorer aussi la situation des enfants dans les mines, et ici c'est nous. Si vous parlez des mines, c'est à Kawama et aussi s'il y a des mines, il faut qu'il y ait les écoles. Il faut qu'il y ait des écoles, comme des écoles, que le prix des écoles soit un peu amélioré, adapté aux situations que nous avons ici au Congo.
Mmh.
Parce que la plupart des enfants, si vous leur posez la question de savoir pourquoi est-ce que vous fait là, il n'y a pas d'argent pour étudier. Donc je pense qu'il faut que les écoles soient un peu améliorées, le prix des écoles soit un peu amélioré, et qu'il y ait aussi les systèmes comme l'année passée où on avait distribué les histoires, les cahiers, le sac gratuitement. Il y a aussi ces systèmes-là. Je pense que ça va beaucoup plus améliorer la situation.
Merci beaucoup, Jiresse. Il faut d'abord, créer les centres d'éducation pour les enfants. Quand ces enfants seront occupés, ils vont suivre l'instruction, ils ne vont pas se retrouver dans des carrières d'exploitation artisanale des différents minerais. Mais vous souhaitez aussi qu'on puisse créer des écoles, et les écoles qui soient viables dans les villages à proximité des carrières d'exploitation artisanale, parce que ces enfants, s'ils vont dans les mines, c'est parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas de moyens de pouvoir se payer l'école. Mais s'ils peuvent avoir l'accès à l'école dans leur milieu, dans le village où on exploite les différents minerais, ça peut permettre à ce qu'on puisse mettre fin à cette situation. Merci beaucoup, Jiresse. Nous retournons ici dans la capitale, à Kinshasa. Bernard, vous êtes avec nous, bonjour. Bernard, bonjour.
Bonjour.
Nous dégageons ensemble les pistes des solutions pour mettre fin à ces systèmes d'exploiter les enfants, de faire travailler les enfants, que ce soit dans les mines ou bien d'autres travaux qui sont contraires à la loi. Qu'est-ce qui doit être fait, Bernard?
Comme j'avais déjà intervenu sur votre page Facebook, moi je ne trouve pas que ce n'est pas du tout mauvais, parce que en voyant ce que les parents gagnent, les parents n'arrivent même pas à répondre aux besoins quotidiens de la famille. Le salaire est tellement maigre que cette idée est quand même géniale. On envoie les enfants travailler pour contribuer aussi quelque part au budget familial. Ce n'est pas du tout mauvais.
Oui, mais Bernard, quand nous parlons du travail, quand vous regardez les enfants qui sont exploités dans les carrières d'exploitation artisanale des minerais, ce sont des enfants qui sont exposés à beaucoup de dangers. D'ailleurs, selon le rapport de l'ONG que nous avons évoqué tout à l'heure, la vision du monde, il y a tellement de dangers. Beaucoup d'enfants y sortent avec des maladies, il y en a qui ont des détériorations de la peau, ils grandissent difficilement, ils ont des lésions musculaires parce que c'est un travail forcé. Pensez-vous vraiment que ce travail doit être bénéfique pour un enfant de 13, de 12, 8, 9, 14 ans de se retrouver dans ces mines pour travailler et contribuer au budget familial, Bernard?
Mais la situation dont nous sommes butés, il n'y a pas de choix. Nous faisons des esclaves des autres parce qu'on n'a rien. Il n'y a pas de choix. Ces ONG-là qui publient de n'importe quoi, là, est-ce qu'elles ne peuvent pas critiquer au moins le gouvernement qui fait souffrir les gens?
Oui, Bernard, je ne sais pas, peut-être on ne se comprend pas. Le problème de l'ONG, c'est quoi? L'ONG trouve que c'est anormal, parce que quand vous regardez la loi, on dit un enfant 12-13 ans ne peut pas se retrouver dans une mine pour travailler et y sortir avec une maladie, avec une fracture. Il y en a qui tombent même dans l'eau, qui meurent. Vous pensez vraiment que dans votre famille, vous pouvez envoyer un enfant de 13 ans dans une mine d'exploitation de diamants pour vous amener de l'argent, parce que au niveau du pouvoir public, le gouvernement ne fait rien vraiment? Vous pensez que vous pouvez faire ça?
Mettez les journalistes, comprenons-nous quand même bien. Il y a des lois qui interdisent ça, et il y a des ONG qui critiquent. Est-ce que celui qui a écrit cette loi-là, et ces ONG-là, est-ce qu'un enfant qui ne mange pas bien chez lui peut vivre comme il faut?
Voilà, merci beaucoup Bernard. Je crois que bon, c'est votre point de vue. Docteur Richard, vous êtes venu avec Kinshasa, vous avez suivi Bernard. Lui, il pense qu'on ne doit pas s'alarmer plutôt quand les enfants travaillent dans les mines, parce que la situation socio-économique étant difficile pour les parents, autant mieux que les enfants se retrouvent dans les mines, travailler pour contribuer au budget familial. C'est vraiment son point de vue, il défend ça comme ça. Pensez-vous que ça puisse être compris de cette manière, Docteur Richard?
Bonjour d'abord, bonjour à tout le monde, bonjour Pierrot. Voilà, ça c'est son point de vue, parce que il n'est pas informé. Vous savez que la loi, quand elle n'est pas accompagnée des mesures d'information, c'est une loi caduque par elle-même, et les gens peuvent l'interpréter comme ils veulent. Donc ça c'est la première chose. Alors, maintenant, la deuxième chose que je peux ajouter, c'est que je félicite l'invité de façon négative. Quand il a parlé, on peut envoyer l'enfant vendre la cigarette. Ah, ça c'est vraiment négatif. Hein. Si c'est ça la Lisadelle, coup de chapeau. Alors, maintenant pour Mon point de vue, on doit définir le travail de l'enfant dans notre contexte. Mais quand vous prenez le texte en question, on ne le définit pas. Et on voit même les enfants se rebeller à la maison. Lorsqu'on leur dit de prendre le boyau pour arroser les fleurs, les matembélés, etc. Donc, on doit définir ça. Si ce n'est pas défini, on crée des rebelles. Et quand vous montez à l'université, moi souvent je vais voir les étudiants à l'université. D'autres ne savent même pas nettoyer leurs caleçons, excusez-moi de dire comme ça. Parce que à la maison, on leur a dit travail de l'enfant, travail de l'enfant. Le boy nettoyait tout, même les chaussettes. Arrivé à l'université, il est incapable même de cuire un œuf, de ne pas faire des crêpes, etc. Donc, on doit le définir. Alors, maintenant pour la question posée, je crois, amener les enfants à travailler dans les mines, c'est vraiment les tuer. Parce que surtout dans le Katanga, là où il y a des irradiations non contrôlées, vous savez que on est en train de se plaindre, il y a beaucoup de malformations congénitales qu'on a remarquées parce que n'importe qui tient les minerais ionisants comme il veut et amène n'importe où, et voilà la conséquence. Donc, même pour l'école, quelle école? Vous savez que l'école a fabriqué des chômeurs. Dans nos villages, il n'y a pas de chômeurs. Qui est malafoutier? Qui est attrapeur de souris à gauche, des rats à droite? Tout le monde a un travail. Et avec la définition du travail selon les autres, on dit seulement 10% de la population congolaise travaille. Ce n'est pas vrai. Hein? Les chasseurs de gibier, qui les a comptabilisés? Les malafoutiers, qui les a comptabilisés? Les ceux qui, je ne sais pas, qui ramassent les chenilles, qui les a comptabilisés? Pour le, selon les autres, le travail c'est quoi? C'est ça, ça aussi ça définit. Le travail c'est quoi et où?
Voilà. Ça veut dire que le problème, docteur Richard, si c'est, je vous écoute, vous êtes d'abord très inquiet parce que notre invité, il a donné l'exemple en parlant de petits travaux. L'enfant peut vendre de manioc. Il a évoqué aussi la cigarette. Vous n'avez pas souhaité que ça soit dit ainsi, l'enfant qui doit vendre la cigarette. Je crois bien, l'invité, on pourra recadrer cela. Merci beaucoup pour cette...
Oui, c'est parce que...
Oui, merci. Merci, oui, docteur Richard, oui.
D'allumer la cigarette.
Merci.
Et vous voyez ce que ça peut faire. On a vu des parents envoyer l'enfant acheter la cigarette. Et l'allumer. On a vu des enfants vendre la cigarette, on leur a dit d'allumer. Vous voyez, quel cercle vicieux l'enfant entre.
Et voilà.
Quel cercle vicieux.
Et là, on l'expose directement
à la consommation. Moi, je suis pour travaux initiatiques. Moi, je ne me gêne pas de dire j'ai vendu la bouteille aigre de ma mère. Elle a pris ça chez les popos. À Citas ici. Moi, j'ai vendu ça. Njili connaît ça. Tout le monde de Njili connaît. J'ai vendu les beignets de ma mère. Quand j'étais de l'après-midi, je fabriquais les beignets. Elle venait prendre vers 10 heures. Entre 6 heures et 10 heures, je dois aller me préparer pour aller à l'école. Je préparais ces beignets. J'ai préparé les micatalos, j'ai préparé les gratins, etc. Je sais faire ça. J'ai aidé les parents pour la vendre. Mais quels travaux? Quel travail d'enfant.
Voilà, merci docteur.
Quel encadrement.
Voilà, merci beaucoup docteur Richard. On comprend. Il faut inscrire le travail de l'enfant. D'abord, il faut le définir pour savoir qu'est-ce que l'enfant doit faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Mais en ce qui concerne les travails dans les carrières d'exploitation minière où nous venons d'évoquer tout à l'heure, là, c'est carrément, vous avez dit, c'est exposer l'enfant à la mort. Mais on peut initier l'enfant aux petits travaux à partir de la famille pour savoir ce que l'enfant doit faire et puis qu'il devienne responsable. Merci beaucoup pour cette contribution. Omar, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Pierrot et la Meiji, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi. Et
vous avez suivi, il y a les enfants qui sont exploités, mais il y a ce que Dr Richard dit, les petits travaux initiatiques au niveau de la maison, on peut montrer à l'enfant quoi faire, comment préparer ceci, comment faire cela, ça peut le permettre à devenir responsable. Mais il y a aussi ces enfants qui sont exploités par d'autres personnes, comme dans de carrières d'exploitation minière ou dans d'autres activités plus dures qui exposent la vie de l'enfant. Et nous dégageons les pistes des solutions pour parvenir à mettre fin à cela. Omar, quelle est votre contribution?
Merci beaucoup, Pierrot. C'est avec émotion que je prends cette parole lorsque j'apprends qu'en plein XXIe siècle, il y a encore des enfants qui sont soumis à des travaux durs. Ça, c'est inhumain et ça mérite d'être dénoncé. Alors, lorsque la loi tend à protéger l'enfant, c'est qu'on considère que l'enfant est un être vulnérable. Et la vulnérabilité de l'enfant n'est plus à démontrer, vu son immaturité et son incapacité de travailler. Je félicite Dr Richard qui a parlé de l'enfant, oui. Je crois que dans la société traditionnelle, ceci ne se passait même pas. Avant 18 ans, il était anormal qu'un enfant puisse travailler comme on peut le voir aujourd'hui, sauf les travaux initiatiques, comme il est dit. Mais c'est suite à l'évolution des choses qu'on a permis qu'à un certain âge, l'enfant peut travailler. Je voudrais parler de l'âge aujourd'hui requis pour qu'un enfant puisse travailler. C'est au moins 16 ans. Et on peut aussi considérer à 15 ans si le tribunal permet. Mais à deux conditions. À condition que ce travail soit un travail léger et salubre. Mm-hmm. C'est comme Dr. Richard l'a dit, à de simples travaux initiatiques, tu ne peux pas attenter au développement physique, mental et même culturel de l'enfant. C'est ça. Je voudrais là citer l'article 32 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, qui est aussi complété par l'article 53 de la loi de 2009 qu'il invitait à citer. Mm-hmm. Ces deux articles interdisent à toute personne morale ou physique de donner à un enfant des travaux durs. Mais M. Pirelamegi, c'est ce que nous crions toujours jusqu'aujourd'hui, c'est le respect de la loi qui est la première cause de ce que nous voyons. Il n'existe pas une police de contrôle pour descendre dans les carrières, dans toutes les entreprises, voir comment on fait souffrir nos enfants. Soit d'autres sont là, ils font des tours, mais lorsqu'on leur donne quelque chose, mm-hmm. ils ferment les yeux. Mm-hmm. Et deux, il y a aussi un problème important qu'on doit soulever, c'est la pauvreté. S'il n'y a rien, en tout cas, les parents ne peuvent plus rien faire. Résoudre les cas de la pauvreté au Congo permettra aussi à ce que les enfants n'aillent plus travailler. Mmh. Et enfin, la mauvaise foi de certains parents, comme Dr. Richard l'a dit, comment un parent peut permettre à son enfant de vendre la cigarette qui nuit à la santé? Alors pour finir, puisque le temps fait défaut, moi je pense que la solution passerait par l'institution dans toute la République des tribunaux d'enfants, qui sont presque canis existants aujourd'hui. Ils auront comme travail, ces tribunaux-là, de contrôler si les lois mises en place pour l'enfant sont respectées et de sanctionner tous les contrevenants. Des deux, l'État doit faire un effort, comme le fait la Radio Capi, de vulgariser les lois qui protègent l'enfant, parce que beaucoup d'employeurs les font, faute de connaissances. Et enfin, la famille qui est le noyau de toute société doit comprendre que l'enfant mérite d'abord sa protection parce que mm-hmm. si la famille protège bien, on pourra aussi bien protéger la société. Mais nous finissons par interpeller tout le monde. Les enfants sont l'avenir de la nation et ils ont besoin de notre protection pour ne pas le faire. Mm-hmm. L'État aussi, via le magistrat, doit condamner. C'est ce que nous décrions, l'impunité. Et lorsque l'impunité continue, c'est l'avenir de la nation qui est dépéri. Voilà ma contribution, Pierrot, et c'est avec émotion que je clôture ces propos. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Omar. Vous proposez et d'abord qu'on installe les tribunaux pour enfants à travers les pays, comme ça ils vont s'occuper de tous les cas de ceux-là qui exploitent les enfants, que ce soit dans les mines, que ce soit dans n'importe quelle activité. Il faut aussi la vulgarisation des textes, des lois qui protègent, qui portent protection de l'enfant. Cela doit être connu par la population, mais au niveau de la famille, il faut aussi beaucoup de sensibilisation. La famille doit comprendre quelle est la cellule de base qui doit d'abord assurer la protection de l'enfant, mais il faut aussi au niveau des magistrats condamner tous ceux-là qui sont soupçonnés. En fait, tous ceux-là qui sont surpris, tous ceux qui utilisent ou qui exploitent les enfants, il faut les condamner. Franklin Tabouka, vous va garder la ligne. Nous allons lire quelques messages. On va revenir à notre invité Joseph Goudé Kayembe pour réagir à ces premières interventions de nos auditeurs. Joël Benoît, Tiepela Kamwanga dit ceci. Il y a aussi des parents qui travaillent pour un salaire insuffisant. Pour finir, ils disent à leurs enfants, moi j'ai payé les études, toi débrouille-toi pour payer les objets classiques. C'est ainsi que les enfants se retrouvent en train de travailler, en train de faire n'importe quoi. Fiston Vaweka, notre État est incapable de créer des emplois. Alors, laissons ces enfants préparer leur avenir. Paulin Poyi, pour lui, dit, ventre affamé n'a point d'oreille. L'État doit savoir encadrer, orienter les enfants dans des domaines bénéfiques pour leur avenir. Les parents ne peuvent rien quand ils n'ont pas assez de moyens pour subvenir aux besoins de ces enfants. Serge Mibenge Berton pense qu'aux enfants, c'est pas aux enfants d'aller faire ce genre de travail, mais plutôt qu'ils aillent à l'école. Malheureusement, leurs parents sont au chômage, nombreux n'ont pas des moyens conséquents pour faire scolariser les enfants. C'est ainsi qu'ils se retrouvent dans ces carrières d'exploitation minière. Lonzo Eric Kamabou, qui nous écrit des Goma, il dit ceci, pour mettre fin à cette pratique, il faut d'abord que l'école primaire soit gratuite et obligatoire, comme les stupides notre constitution, car les enfants qui travaillent sont ceux-là qui devraient être à l'école, mais par incapacité, ils préfèrent chercher de petites préoccupations pour ne rien faire à la maison. Mais aussi, il faut que l'État congolais améliore le salaire des agents de l'État. Imaginez un papa qui touche 50 000 francs, comment peut-il arriver à satisfaire aux besoins de sa famille? Les enfants, dans ces conditions, risquent de se retrouver en train de faire des travaux lourds pour subvenir à leurs besoins. Innocent Armand Kondoli, le travail des enfants mineurs est proscrit par la législation nationale et internationale. Les mineurs étant sous la responsabilité des parents, il faut sanctionner ces derniers. À noter que le chômage des parents est à épingler. par manque de ressources. Et enfin, Vipo Kamango, qui nous écrit de Massachusetts à Boston, aux États-Unis d'Amérique, dit ceci: concernant la situation de ces enfants, c'est dû à l'irresponsabilité des autorités de l'État, la complaisance et le manque d'expérience professionnelle. Enfin, nous avons des auditeurs en ligne qui vont garder la ligne, le temps d'accorder la parole à notre invité, Joseph Goudé-Kayembe. Vous êtes avec nous tout à l'heure là. On vous a perdu. Vous avez suivi les uns et les autres. Il y a cette inquiétude de Dr. Richard, par exemple, à l'exemple donné, hein, par rapport à l'exemple donné sur les enfants qui vendent la cigarette. Et puis, les uns et les autres, mais on nous dit là, le grand problème aujourd'hui, c'est même la vulgarisation de la loi pour que les gens sachent quel est le travail que l'enfant doit faire, ce que l'enfant ne doit pas faire. Vous êtes avec nous, je crois.
Oui, je suis avec vous. Je peux réagir?
Oui, effectivement, vous avez la parole, oui.
Merci beaucoup pour la parole. D'abord, je tiens à remercier le docteur qui m'a fait la remarque en ce qui concerne l'exemple que j'ai donné de la vente des cigarettes. Il a raison. Je crois que j'ai manqué l'exemple, un bon exemple à donner.
C'est bon.
Je m'en excuse.
Ok.
Je crois que la loi dit ceci pour ce qui concerne les travaux qu'il doit faire l'enfant. La loi dit, à l'article 54, que l'enfant âgé de 16 à 18 ans ne peut être engagé, ni maintenu en service que pour l'exécution des travaux légers et salubres.
Mmh.
Un arrêté du ministre ayant la charge de travail dans ses attributions détermine les travaux légers et salubres. Donc, le ministre des travaux qui a la charge de travail doit déterminer quels sont les travaux légers et salubres que doit faire l'enfant qui a plus de 15 ans, qui est entre 16 et 18 ans.
18 ans, oui.
Il doit faire. Donc, ces travaux-là ne sont pas déterminés. Par contre, quand nous allons dans les mines, nous trouvons des enfants de 12 ans, des enfants de 9 ans, de 11 ans, de 12 ans, 13 ans, jusqu'à 14, 15 ans. Donc, ces enfants-là sont exclus d'office de cet arrêté que le ministre pouvait prendre. Donc, ce sont des petits-enfants, leur place est à l'école. Et je voudrais en même temps réagir par rapport à notre ami qui a parlé de Katanga. Il a donné un très bel exemple lorsqu'il parle de l'école de proximité. C'est dans le souci de pouvoir répondre à la préoccupation de voir tous les enfants à l'école, il propose qu'il y ait des écoles de proximité. Les écoles de proximité vont permettre à ce que même ces enfants qui ont l'obligation de faire les travaux légers puissent pouvoir d'abord commencer par l'école et faire ces travaux légers par la suite. C'est-à-dire que le matin, ils sont à l'école et dans l'après-midi, ils peuvent faire les travaux légers pour subvenir aux besoins de la maison et de leurs propres besoins. Et ça, j'ai retenu, c'est très important.
Oui.
Et il a parlé des tribunaux pour enfants. Les tribunaux pour enfants ont l'obligation de pouvoir trancher les affaires concernant les enfants. Mais je pense que, à notre avis, nous avons plaidé pour que ces tribunaux soient implantés à travers la République, dans tous les territoires. On appelle des territoires, qui se soient installés dans tous les territoires pour que les dossiers des enfants soient suivis de manière régulière. Mais il est demandé à l'État de rendre l'enseignement gratuit obligatoire, comme notre ami l'a dit. Quand il y a la gratuité, le parent a l'obligation d'envoyer l'enfant à l'école et l'État les rend gratuits et obligatoires. À ce moment-là, et la police et tous les agents sont mis à contribution pour obliger accompagner l'enfant à l'école. Et c'est ce qui n'existe pas. Quand on dit que la loi n'est pas d'application, c'est par rapport au fait que l'État ne joue pas son rôle de contrainte qu'il doit faire à l'enfant dans l'école. Ces contraintes-là, on ne les voit pas. On voit l'enfant dans les mines pendant les heures de cours, personne ne s'en occupe. On voit l'enfant en train de faire des gros travaux, personne ne s'en occupe. Il faut que ce soit un problème de l'État, un problème de la communauté. Et il y a quelqu'un qui a dit que on ne doit pas s'alarmer, on doit laisser l'enfant évoluer. Mais cet enfant qui évolue dans les mines, qui n'a pas étudié, qui ne sait ni lire ni écrire, il a quel avenir? si nous avons autant d'enfants, des millions d'enfants qui ne vont pas à l'école, notre avenir sera comment? Vous plaignez de la présence de Kuluna. Mais ce Kuluna, quand vous le voyez de près, ce sont les gens qui n'ont pas étudié. Quand on n'a pas étudié, c'est un danger permanent pour la nation. Donc, il ne faut pas encourager, parce que nous sommes dans une situation de crise, que nos enfants puissent abandonner les études au profit des intérêts matériels qui n'ont qu'une durée éphémère. Donc, ça, nous ne pouvons pas encourager. Nous tous, nous devons nous battre pour que les enfants aillent à l'école. Ça, c'est très important. Et il faut sanctionner les parents, effectivement. Les parents, la loi dit ceci. En ce qui concerne la participation des parents, pour ce qui est de la scolarité, la loi dit que les parents ont l'obligation d'amener l'enfant à l'école. Et l'État doit rendre l'école gratuite et obligatoire. Donc, il faut que si l'État constate que les parents n'ont pas amené l'enfant à l'école, les parents doivent être sanctionnés pour que prochainement, qu'ils prennent leurs responsabilités afin d'envoyer l'enfant à l'école. Et c'est ce que faisaient même les Belges quand ils étaient chez nous. Donc, quand l'enfant n'est pas parti à l'école, ce sont les parents qui sont sanctionnés.
Oui.
Et ces choses n'évoluent pas parce qu'il n'y a personne aujourd'hui qui tient compte de la mise en application de toutes ces lois pour permettre à ce que les enfants puissent bénéficier de manière concrète de leur droit d'aller à l'école. C'est un droit. Droit à l'éducation, c'est un droit. Mais ils ne peuvent pas le faire tant que les parents ne participent pas, tant que l'État ne joue pas son rôle de l'obliger d'aller à l'école.
Voilà, merci. On vous garde en ligne le temps d'écouter Franklin qui est à Bukavu, la Guilois qui est à Kalemie dans la province du Katanga. Je rappelle encore à nos auditeurs que nous dégageons ensemble les pistes et solutions pour mettre fin à l'exploitation des enfants dans les mines, au travail des enfants dans votre milieu. Qu'est-ce qui doit être fait pour mettre fin à cela? 081 890 43 39.
Capissoir vous propose du lundi au vendredi à partir de 16h, heure de Kinshasa, la chronique développement durable et environnement, les offres d'emploi, les nouvelles du site web de Radio Okapi. Retrouvez à partir de 17h sur la radio de la paix, les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger et les infos sport toutes les demi-heures. De 6h à 19h, bienvenue dans Okapi Soir.
Franklin, vous êtes à Bukavu dans la province du Sud Kivu. Bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio, et bonjour à notre invité.
Vous avez suivi les uns et les autres, oui, on vous écoute Franklin.
Oui, par rapport au thème du jour, je ne veux plus entrer sur l'aspect juridique tel qu'annoncé par mes prédécesseurs, parce que je fais mienne toutes leurs propositions. Mais moi je voulais vous soulever un autre point, il s'agit de la sensibilisation des parents. Est-ce qu'on crée une émulation sur le plan du comportement des parents? Aujourd'hui, il faut revaloriser aussi l'enseignement. La plupart des parents n'envoient pas leurs enfants à l'école, pas forcément par manque de moyens pour prendre en charge ces enfants-là, mais parce que les études ne sont pas valorisées. Il y a des gens qui terminent les études, mais il n'y a pas cette émulation-là pour dire à d'autres parents que non, elle a fini les études et voilà son niveau de vie. Ça aussi, ça peut faire en sorte que certains parents, qui d'ailleurs n'ont pas étudié, si vous vous retrouvez dans ce cas-là, ils n'ont pas étudié et eux ne trouvent pas aucun intérêt parce que peut-être ils ont gagné leur vie autrement sans avoir étudié. Il y a ceux qui ont étudié mais qui n'ont pas gagné leur vie, qui ne sont pas mieux placés dans la société. Et ces parents-là n'auront pas le choix, n'auront pas le temps de s'insister pour que leurs enfants aillent à l'école. C'est là, c'est une situation qui fait que nous vivons beaucoup plus dans les villages où lorsque les enfants travaillent et gagnent un peu quelque chose par rapport à celui qui a étudié, les parents peuvent dire non, ça ne sert à rien d'envoyer l'enfant à l'école. Au moins, je le laisse travailler. Ça aussi, au-delà de dire que l'éducation doit être obligatoire et gratuite, ce qui est tout à fait vrai et ce que je soutiens, il faut aussi créer des conditions d'émulation pour que ceux qui n'ont pas étudié puissent envier ceux qui ont étudié. Mais si on se limite seulement au niveau de la loi, c'est vrai, la loi peut aussi aider, mais il faut étudier les conditions, les situations socio-environnementales de l'environnement dans lequel nous vivons. Si on étudie ce paramètre-là, en accordant, en rajoutant la loi, moi je pense que les choses peuvent mieux marcher. Deuxième proposition que moi je voulais faire, il faut donner à ces libéraux.
Oui, allez-y, on vous écoute. Deuxième proposition, oui.
Je disais que deuxième proposition que moi je puisse faire, c'est donner au travail, ceux qui travaillent, les salaires qui puissent leur permettre de prendre leurs enfants en charge. Parce que la plupart des fonctionnaires de l'État ne prennent pas leurs enfants en charge seulement parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils essaient de dire non, par exemple, ils ont beaucoup d'enfants, ils essaient de choisir ceux qui sont étudiés et ceux qui ne vont pas étudier. Donc, si on prend en fait la loi, on y ajoute la sensibilisation. On y ajoute des conditions d'émulation et on ajoute aussi les salaires des fonctionnaires de l'État. Moi, je pense que à ce niveau-là, on peut réduire tant la présence des enfants dans les carrés miniers.
Merci beaucoup, Franklin. C'est important ce que vous avez dit. Au-delà du fait qu'il faut stimuler l'enfant à aller à l'école, mais il faut aussi qu'il y ait la valorisation des études, que l'enfant voie que dans son environnement, ceux qui ont étudié, ils ont la stabilité, ils ont accès à l'emploi. Ça peut lui donner le courage de pouvoir aller à l'école. Mais dès que l'enfant découvre déjà qu'à 13, 14 ans, il peut aller dans une mine des diamants, c'est avoir de l'argent plus que la personne qui est partie à l'école. Tout de suite, tous les enfants qui sont dans l'environnement minier, ils vont trouver qu'il serait mieux d'aller travailler parce que là, ils auront de l'argent que les gens qui sont allés à l'école. Il faut aussi accorder les salaires décents à ceux qui travaillent pour leur permettre de pouvoir scolariser leurs enfants. Et comme ça, on n'aura pas les enfants qui vont négliger les études pour se retrouver dans les carrés d'exploitation minière et abandonner, faire un peu ses travaux à cet âge interdit par la loi. Merci beaucoup pour cette contribution. La Guillois, vous nous appelez des Kalemi au Katanga. Bonjour, la Guillois.
Bonjour Pierrot et la Mégie, bonjour à l'invité et bonjour à tous.
On vous écoute, la Guillois.
Oui, la problématique des travaux des enfants minés a connu un boom dans le district du Tanganyika, plus précisément dans le territoire de Nyunzu, suite à une carrière de mines appelée communale CB qui était découverte à quelques kilomètres de Nyunzu. Conséquence de cette carrière, l'abandon massif des élèves sur le banc de l'école, voire certains territoires voisins étaient touchés par ces mauvais vents. C'est comme le cas de Kabalo, Nyunzu, Kalemi et consorts. Mais pour lutter contre ce phénomène enfant mineur dans les travaux, le gouvernement doit assurer sa responsabilité à travers sa police des mines, surveiller tous les carrés miniers afin de pouvoir faire rentrer tous les enfants qui sont à l'âge scolaire, qui donne aussi des conditions à tous les responsables des entreprises minières à ne pas admettre un enfant à l'âge scolaire dans tous les travaux. Et si ces gens les font, ils violent aussi la loi visant la protection de l'enfant. Mais certains enfants justifient l'abandon des études suite au manque d'argent dont les parents sont obligés de payer. Et pour terminer, M. Pierrot, comme j'ai entendu l'invité qui a dit que envoyer les enfants, c'est une obligation des parents. Et le gouvernement aussi a une obligation suite visant l'article 43-44 de la Constitution qui parle de la gratuité, le gouvernement aussi a une obligation de pouvoir mettre disponibilité le montant pour que les enfants puissent étudier gratuitement. Les enseignants sont payés, les parents ne sont pas assez payés, mais vous allez voir un enseignant qui touche 50 000 francs congolais. Est-ce qu'il peut envoyer ses enfants à l'école, soit un parent qui est fonctionnaire, qui touche 50 à 45 000, voire 35 000 francs congolais? Voilà, le gouvernement aussi doit prendre sa responsabilité, voire les parents aussi. Voilà, c'est donc que je vais un peu contribuer suite à ça.
Merci beaucoup, la Guillois. C'est très bien précis. Vous avez expliqué ce qu'il doit être fait, la responsabilité qui est partagée de part et d'autre. Si tout cela est fait selon cette proposition, on peut résoudre ce problème des enfants qui se retrouvent en train de travailler dans des carrières d'exploitation artisanale de mines. Nous avons aussi le message des Babone Kachaba qui nous écrit de Bukavu. La non prise en charge de la scolarisation des enfants et le manque d'emploi des parents est à la base de ces phénomènes. Car si la scolarité de ces enfants était prise en charge par l'État, ces derniers devraient contrôler ces enfants, mais faute de cette irresponsabilité, il est difficile de pouvoir s'imposer quand on ne sait pas donner les moyens aux parents. Oscar Aguala Boliango dit ceci, c'est simple, il faut que l'État congolais propose une punition, une amende sérieuse pour effrayer les gens qui font travailler ces enfants. C'est ce qu'on a dit, la loi pourtant protection de l'enfant prévoit ce qui doit être fait pour ceux-là qui exploitent les enfants. Jean de Dieu Mambourigo qui nous écrit d'Arou en province orientale, j'ai fait un constat dans mon milieu, ici toutes les belles maisons et d'autres en briques le sont grâce aux enfants qui fournissent au moins 70% des briques avec une petite somme comme salaire, donc personnel non qualifié et en plus ils sont exploités. Patient, vous êtes à Lubumbashi au Katanga, bonjour.
Bonjour monsieur Pierrot, c'est Patient Chitoko à Lubumbashi.
On vous écoute, qu'est-ce qui doit être fait pour faire face à cette situation d'exploitation et du travail des enfants dans les mines et dans d'autres services?
Oui, monsieur Pierrot, avant de commencer, je vais vous dire ceci. Le premier milieu éducatif de l'enfant, c'est la famille. Deuxième milieu, l'école. Troisième milieu, la société. Quand un enfant qui vit dans sa famille, parce que tous les enfants que vous voyez dans des mines, ils ont leur famille respective. Alors moi, j'attaque directement les enfants qui laissent aller leurs enfants dans des mines. Donc ça ne peut pas aller, monsieur Pierrot. Vous savez, en première position, les parents doivent regarder. Est-ce que mon enfant a l'esprit de faire quoi? Il faut orienter les enfants. Maintenant, cette fois-ci, ce n'est pas le cas. C'est les parents. Ils laissent aller, chez les enfants. Donc, les enfants ne doivent pas bien étudier. À ce moment-là, et puis les enseignants aussi, je les attaque parce que ce sont eux qui vont rassurer aussi l'éducation à l'école, parce que l'école, c'est le deuxième milieu éducatif de l'enfant. Donc, les enseignants qui n'interviennent pas. Si l'enfant a un problème à l'école, un enseignant n'intervient pas. Donc, l'enfant peut abandonner. Donc, ça devient un problème. Il peut aller dans des mines. À ce moment-là, le troisième milieu et la société, là, directement, nous voyons le gouvernement. Il faut que le gouvernement puisse bien regarder ces problèmes-là. Il faut récupérer tous ces enfants-là qui vivent dans des mines. Donc, ce n'est pas du tout normal, M. Pierrot. Il faut bien vérifier ces problèmes.
Merci beaucoup, patient. Trois propositions. Commençant par la famille, l'école et la société, il faudrait que chacun prenne ses responsabilités, qu'on ait des mesures pour protéger la vie de ces enfants qui sont exposés en travaillant dans des carrières d'exploitation minière. Nous avons ce message de Fabrice Ndala qui dit ceci. Aujourd'hui, 53 ans après l'indépendance, le Congo, pourtant doté d'innombrables ressources naturelles, n'offre toujours pas à ses citoyens un cycle complet de vie biologique, c'est-à-dire une enfance, une adolescence, un âge mûr et une vieillesse. Nous pensons que l'État congolais doit assumer ses responsabilités en créant plus d'emplois sérieux pour les parents et alors le reste se fera comme par un bâton magique. Nous appelons Lombi qui nous appelle, disons, c'est Lombi qui nous appelle de Saint-Louis en France. Vous êtes avec nous sur les antennes, Lombi, bonjour.
Bonjour monsieur. Vous... je voulais intervenir. D'abord, félicitations pour vos émissions.
Merci beaucoup.
Moi, si vous voulez, je veux dire que d'abord, il faut poser un cadre juridique pour remédier à tous ces problèmes des enfants Kuluna ou des enfants Chégué. Donc, il faut poser un cadre juridique. Et pour poser un cadre juridique, c'est le travail du législateur, qu'on appelle chez nous député national. Moi, je vois très mal du moment qu'il y ait un législateur, donc le député national, lui qui s'est fait jeter en prison ou tabassé pour la simple raison ou le simple motif qui la défense de ces mêmes personnes. Donc le travail à faire, ce sera de poser un cadre juridique pour que les droits de ces enfants soient respectés, pour que tout citoyen puisse intervenir dans des cas qu'on appelle ce que vous avez parlé tout à l'heure, des enfants d'Oki. Voilà. Donc, n'importe quelle personne peut intervenir s'il y a un cadre juridique et qui peut aboutir à quelque chose. Voilà le sentiment ou ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui.
Merci beaucoup, Lombi, de nous avoir appelé de Saint-Louis en France. Vous avez évoqué le cadre juridique. D'ailleurs, notre invité a expliqué la loi de 2009, la loi protection, portant protection de l'enfant. Cette loi détermine tout ce qui doit être fait, définit tout clairement et les interventions qu'il faut, même les sanctions par rapport à ceux qui violent les droits de l'enfant. Mais vous avez suivi Maître Omar de Kinshasa qui a dit, et les autres auditeurs, que le problème aujourd'hui dans notre pays, c'est les déficits au niveau de l'application, de la sensibilisation même. Beaucoup de gens ne connaissent pas que cette loi existe, et même ceux qui connaissent, c'est quelques bribes d'informations. Même au niveau de la justice, il faudrait que cette loi soit appliquée. Comme ça, tout le monde sera travaillé pour protéger l'enfant. Nous avons encore deux messages avant d'accorder la parole à notre invité. Sylvain Miongolo dit ceci, l'idée qui est dans les têtes de ces enfants est que leurs frères qui ont terminé les études avant eux n'ont pas trouvé un emploi. Alors, il faut faire ce genre de travail pour se rattraper et plutôt que poursuivre les études. Donc, il faut que ceux qui commencent réussissent. Non, sinon, ça va être difficile si les enfants n'ont pas les modèles de réussite au niveau de leur environnement immédiat. Justin Gak Kuiraki, depuis Butembo, propose que ces enfants soient pris en charge par les gouvernements afin que qu'on puisse éviter la création des milices, parce que dans ce milieu, si on a beaucoup de milices aujourd'hui où les enfants sont utilisés, c'est parce qu'ils se retrouvent dans les carrières d'exploitation minière et dans ce sens, ils ont la facilité d'exploiter et d'être recrutés par des groupes armés. Merci beaucoup Justin pour cette proposition. Je rappelle encore que notre invité, c'est monsieur Joseph Godet Kayembe, qui est le secrétaire permanent adjoint du Conseil national de l'enfant et président de la LISADEL. C'est avec lui que nous dégageons les pistes des solutions pour faire face à ces problèmes de travail des enfants, l'exploitation des enfants dans les secteurs miniers, mais dans d'autres domaines aussi. Qu'est-ce qui doit être fait? 081-890-4339.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Monsieur Joseph Godet Kayembe, vous avez suivi encore nos auditeurs. Hein. Ils sont revenus sur le problème de la sensibilisation par rapport à la loi, la responsabilité des parents, la responsabilité de l'État. Voilà, on peut dire d'une manière globale, comme l'a dit Patient, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de la société, au niveau de l'école et de la société, il y a vraiment beaucoup d'efforts qu'il faut fournir. Mais vous qui travaillez d'une manière permanente sur terrain, en ce qui concerne le travail des enfants, on a un problème de déficit de l'application de la loi. Quelles sont les autres mesures d'accompagnement que vous discutez souvent avec votre partenaire qui est le pouvoir public par rapport à cette situation de l'enfant et le travail qu'il fait?
Oui, merci beaucoup pour cette question. Mais je voudrais d'abord revenir sur les propositions qui ont été faites par M. Franklin lorsqu'il dit qu'il faut sensibiliser les parents car les études ne sont pas valorisées. Il parle de références, il parle des conditions d'émulation, il parle de salaire de fonctionnaires. Mais je voudrais répondre à notre ami que quand on étudie, l'étude d'abord développe l'individu. Ça n'a rien à faire avec le salaire. L'étude développe l'individu. Donc si on préfère que l'enfant étudie, c'est pour qu'il se développe pour lui-même d'abord. Quand on a étudié, on est différent de celui qui n'a pas étudié. La réflexion est différente, même sa contribution par rapport au développement du pays, même sa manière de vivre, c'est lié à tout ça. Les études sont très importantes. Parce que la personne qui a étudié est différente de la personne qui n'a pas étudié. Du fait de la manière de vivre, du fait de la façon de s'organiser. Donc, il faut encourager les études pour les enfants parce que ça conduit à leur propre développement. Et quand nous parlons des salaires, des références, ça nous déplorons parce que on peut condamner l'État congolais parce qu'il donne le salaire, il a détruit l'étude, le sens de fonctionnaire, il a détruit. Et ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis 84, comme nous l'avions dit, lorsque nous sommes entrés en programme avec la Banque mondiale, le FMI, en 84, que le sens du fonctionnaire a perdu son sens au Congo. Donc les fonctionnaires qui étaient bien payés aujourd'hui, ils sont sous-payés. Et puis il y a aussi un phénomène, l'engagement abusif, les personnes fictives dans le fonctionnaire, dans la fonction publique, ça fait que la liste sont plus longue et l'État n'arrive pas à régler tous les salaires des gens selon le besoin de la population. Ça pose des problèmes. Donc il y a beaucoup de fictifs. Comme moi j'ai toujours dit, si on pouvait bien penser, il fallait commencer par régler le problème du fonctionnaire. C'est qu'il faut faire l'assainissement au niveau de la fonction publique pour trouver les réelles personnes qui travaillent et qui doivent bénéficier du salaire de l'État afin de dégager le fonds important pour améliorer leurs conditions. Et ça n'existe pas. Mais je crois que si on fait ça, on peut parfois régler le problème de salaire, comme tu l'as dit. Mais il y a un ami qui a parlé de la police de mine.
Oui.
Vous savez que il est très important que la police de mine soit mise à contribution. Et si la loi, si elle est vulgarisée, elle est disponibilisée au niveau de la police, au niveau de toute la police de mine, parce que comme vous le savez, dans notre pays, on publie une loi, ça reste au niveau du Parlement, pour la vulgarisation, il faut se débrouiller. Il n'y a que la Lisadel qui a mis à la disposition des magistrats la loi sur la protection de l'enfant.
Mmh.
Et si nous avions eu les moyens très limités pour produire la quantité limitée, nous avions négocié avec le ministère de l'EPSP pour que nous puissions avoir des moyens afin de disponibiliser cette loi à la disposition de chaque enseignant, ne fût-ce que l'enseignant. Et cela n'a pas été fait. Si on aurait fait ça peut-être, on aurait quand même réalisé un pas. Donc il faut la volonté de sensibiliser et de mettre la loi à la disposition de toute la communauté pour que le respect des droits de l'enfant soit de rigueur.
Mmh.
Et en même temps, je voudrais insister que la police des mines a l'obligation de pouvoir veiller sur les personnes qui exploitent les enfants dans les mines. Donc il faut qu'il y ait mettre fin. Il faut que cette police travaille en même temps contre les gens qui utilisent les enfants dans les mines. De telle sorte que ces gens puissent, avant d'engager l'enfant, ils se posent la question, l'enfant à quel âge pour l'engager? La personne qui est devant lui à quel âge? Afin que cette pratique cesse. Dans les mines, les gens qui ouvrent les carrés de mines doivent être contrôlés par la police des mines et aussi par la police régulière afin que cette pratique cesse. Parce que nous savons que ceux qui utilisent l'enfant dans les mines les détruisent. Ce sont les personnes qui n'ont pas d'avenir, les personnes qui sont détruites quand ils sont encore enfants. Et ça va faire que le lendemain, nous ayons une société sans référence, une société qui est vouée à la disparition.
Parce
que nous y pensons toujours et tout le temps que tant que les enfants ne sont pas formés, qui vont constituer, qui vont être l'avenir de notre République, si ces enfants ne sont pas formés, bien formés, si ceux qui sont formés à l'école ne sont pas bien formés, mais les enfants qui ne sont pas allés à l'école, la situation va être comment? Donc, pour l'avenir. Donc, dans 20 ou 30 ans, nous allons voir une société des incompétents, une société de personnes qui ne sont pas capables de tenir devant la pression tant nationale qu'internationale, et notre pays, nous risquons de le perdre.
Voilà. Permettez que nous puissions...
Voilà pourquoi nous allons toujours plaider en faveur de la formation, des qualités, et nous avons plutôt préféré que tous les enfants aient l'école, et ceux qui vont à l'école puissent recevoir la formation des qualités, et que l'État le rende gratuit, obligatoire, pour l'avenir de notre République. Mon frère, je vous dis, c'est sérieux. Si les enfants ne sont pas formés, l'avenir n'est pas certain.
Voilà, permettez que nous puissions lire le dernier message et puis on va revenir à vous, oui. Permettez que nous puissions lire les derniers messages, Joseph Godekaimbe, on va revenir à vous, parce qu'il y a aussi le dernier auditeur, Maître Adrien, qui est à Kananga. Mais rapidement, nous avons le message de Philippe Kaboulo, de Lubumbashi, dit ceci, la responsabilité incombe au gouvernement qui manque des politiques pour ses enfants. Dans la plupart des cas, ce sont des enfants abandonnés par les parents. Ce qu'il faut faire de la part du ministère du Genre et Enfants, c'est une politique bien élaborée pour récupérer ses enfants. Texas s'en fout tout, dit ceci, c'est simple, il suffit simplement de créer des emplois et les engager pour payer ce qu'il faut. Et je peux aussi ajouter qu'à Kinshasa, ces enfants deviennent des koulounas car ils n'ont rien à faire par rapport à ceux qui ont étudié. Et il y a notre ami Emmanuel Mboni Padegoma, lui dit, les parents n'ont pas de moyens, et autant mieux laisser les enfants se débrouiller. Si on pourrait bien foncer avec la gratuité, ça pourra résoudre le problème. On écoute Maître Adrien en une minute, Maître, parce qu'on doit revenir à Joseph Godekaimbe pour conclure cette émission. On vous écoute rapidement, Maître Adrien.
Oui, en une minute, Pierrot, je pense que tout le monde a soulevé les problèmes. C'est bien beau de crier des énoncés, mais il serait mieux donc de dénicher un peu la situation, pourquoi l'afflux des enfants dans des activités minières, et nous l'avons fait sur place ici à Kananga, nous sommes dit que c'est la pauvreté qui est vraiment à la base, et sur cela, ils y voient vraiment
Voilà. Merci, merci beaucoup, Maître Adrien, parce que là, on doit vraiment terminer l'émission. On revient à vous, Joseph Godet KMB. En une minute, hein, qu'est-ce qu'on peut retenir? Nous avons dénoncé, on a donné des exemples, mais au coup des pistes, des solutions aussi. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout cela pour terminer cette émission en une minute?
Mais je crois qu'il faut que le gouvernement puisse motiver la police minière et lui donne l'obligation de pouvoir sanctionner toutes les personnes qui exploitent les enfants dans les mines. Deuxièmement, demander, nous devons faire le plaidoyer pour que l'État mette à la disposition des organisations et aussi à la disposition de tous ceux qui ont l'intention de pouvoir vulgariser les lois sur la protection de l'enfant, de pouvoir obtenir les moyens nécessaires pour publier, diffuser les lois et le mettre à la disposition de toutes les personnes qui doivent le respecter, le mettre en application et aussi chercher à activer les tribunaux pour enfants pour que les tribunaux pour enfants puissent régler tous ces problèmes qui du reste sont en train de contribuer à la situation de l'enfant et surtout demander à l'État de rendre l'enseignement primaire gratuit, obligatoire, de manière effective, pas de la manière qu'ils le font actuellement. En demandant à l'enfant de ne pas payer seulement 1000 francs, mais en le laissant entre les mains de l'école qui exige que les parents continuent à participer. Et à ce moment-là, ils n'ont rien fait et ça va continuer à pouvoir rendre la situation de l'enfant beaucoup plus difficile.
Merci.
Et la situation, la vie de la nation ne sera pas certaine.
Merci beaucoup, Joseph Godet KMB, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le secrétaire adjoint du Conseil permanent de l'enfant, du Conseil national de l'enfant et président de la LISADEL. Merci aux auditeurs. Vous avez été très nombreux à intervenir dans cette émission.
Merci beaucoup.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas.
On se retrouve le lundi 9 septembre prochain. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. Il nous reste à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie de Radio Okapi. Au revoir.